Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour cette émission Sine qua non du mois de novembre. Nous enregistrons sans Florence exceptionnellement ce mois-ci, donc merci à Jérémy qui nous fait la technique. Et avec moi sur ce plateau pour débattre sur un beau programme éclectique de 11 films, Adrien.
Bonjour.
Et Jean-Pierre.
Bonjour toutes et tous.
Prêt à en découdre avec un premier film très particulier. Donc on attaque sans transition. Il s'agit de Girl, le premier film de Luc Adont.
Ça se passe bien à l'école ?
Bah oui, pourquoi ?
C'est comment les garçons en classe ?
Bah je sais pas, ils sont gentils.
Ouais, mais bah, est-ce qu'il y en a un qui est... Tu es plus gentil que les autres.
Bah non, j'ai pas envie de parler de ça avec toi. C'est privé.
C'est privé.
Bah pourquoi tu rigoles?
Bah parce que tu te gênes pas quand il s'agit de moi, quoi.
Bah oui,
je trouve ça un peu gonflé. Je trouve ça un petit peu gonflé.
J'ai jamais dit que je tombais amoureuse des garçons en plus.
Ah bon? C'est nouveau ça.
Ouais.
Quoi, t'aimes les filles?
Bah je sais pas. Peut-être.
C'est pas un problème, tu sais, tu peux le dire.
Oui, je dirais, mais je sais pas. On va manger quoi ce soir?
On invite ton petit copain ou ta petite copine?
Voilà un dialogue extrait du film Girl, premier film de Luc Adont qui a obtenu la caméra d'or au dernier festival de Cannes. L'histoire de Lara, 15 ans, qui rêve de devenir danseuse étoile. Lara est un garçon qui veut devenir une fille. Pour l'incarner, le formidable acteur Victor Polster, qui est vraiment une révélation dans ce film. À ses côtés, Arié Worsalter joue le rôle du père, lui aussi très naturel et très crédible. Le film s'intéresse donc à la fois à la danse et au difficile parcours d'un jeune qui veut devenir danseur professionnel et à la fois au problème de la transsexualité puisque Victor veut devenir Lara, le personnage s'appelle aussi Victor, qu'il est prêt à tout pour ça, qu'il suit un traitement hormonal, donc on suit vraiment le cheminement de quelqu'un qui veut changer de sexe, sujet d'actualité qui a été traité assez récemment au cinéma avec The Danish Girl notamment. Voilà, pour moi c'est un film vraiment intéressant qui traite bien le sujet, qui a même quelques moments forts et émouvants et que je recommanderais. Mais que vont en penser mes chroniqueurs, Adrien?
Je suis allé le voir. Sur le moment, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'avais très peur en allant le voir parce que c'est un film qui a fait un buzz énorme à Cannes et chaque année à Cannes, il y a un film qui fait un buzz énorme et auquel on est déçu quand on le voit. Moi, ça avait été Les Combattants et La Guerre est déclarée, j'avais pas du tout aimé. Ce genre un peu premier film ou deuxième film qui fait beaucoup de bruit et après quand on le voit en salle, on est un peu déçu. Et là, non, sur le moment, j'ai beaucoup beaucoup aimé le film, mais là, ça fait un mois que je l'ai vu et il m'en reste rien. Et en plus, comme je suis une petite souris curieuse et pas gentille, je suis allé voir sur les sites d'association LGBT comment le film avait été reçu et notamment je vous conseille d'aller lire un article de Paris Match ou de la RTBF qui a recueilli les témoignages de la communauté trans sur comment ils ont reçu le film et ils n'ont pas du tout aimé le film en fait, la manière notamment les plans où elle se regarde dans la glace pendant 15 fois pour dire oh là là est-ce que je suis bien dans mon cœur, est-ce que je suis mal dans mon corps, tout ça, ils disaient que c'était un peu exagéré. Puis moi à la fin du film, même avant d'aller lire
qu'on
ces
ne
articles,
dévoilera pas n'est-ce pas Adrien,
me pose problème, hein, je savais que que le réalisateur avait travaillé avec Yann Martens et je pensais qu'elle allait abandonner la danse classique pour faire de la danse contemporaine et ça aurait été une fin magnifique. Mais là, ça fait vraiment une fin pour faire pleurer dans les chaumières et tout. Voilà quoi, c'est un peu décevant, mais c'est très beau, la lumière est très belle, les scènes de danse sont magnifiques, des fois ce serait bien qu'ils posent un peu la caméra, et la direction d'acteur est magnifique, du coup je vous conseille d'aller le voir, même si c'est un film un peu maladroit.
Voilà, et puis Adrien le retournera avec une nouvelle fin, vous pourrez aller y assister, ce sera un film parfait. Jean-Pierre ?
Oh ben, je suis un peu de votre avis, sauf que effectivement, comme la danse ne me passionne pas du tout, comme la boxe par exemple, ou autre sport, je me suis un peu ennuyé, mais c'est vrai que c'est bien fait, c'est constamment beau. Quant au problème de la transsexualité, moi, ça ne me pose aucun problème, ni moral, ni politique, sauf que ça ne m'intéresse pas non plus. Alors bon, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas dans ce film, mais néanmoins, je suis sincère et logique. Il faut quand même le voir, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas tous les jours des films sur ce sujet.
Si on veut le voir, il passe encore à la Nef et au Club. Adrien ?
Oui, juste, je suis sorti plusieurs fois d'autres films et il y avait des séances de girls qui se terminaient et les gens discutent vraiment autour de ce film, quoi. Il se passe vraiment des questions et tout ça. Ils se disent, ah, est-ce que le personnage est trop jeune pour savoir son identité sexuelle et tout, surtout des mamies là, à la sortie du club. Du coup, je regrettais de ne pas avoir mon petit micro pour les enregistrer.
Bon, le genre d'interrogation qui ne sert pas bien à grand chose. Moi, je pense que tout est tout à fait crédible et que le réalisateur s'est inspiré de cas qu'il connaît. En tout cas, c'est Girl de Lucas Donte que vous pouvez voir à la Nef ou au Club. Il est encore à l'affiche. On enchaîne tout de suite avec un film qui n'a rien à voir, un film franco-libanais. Il s'agit de Capharnaüm de Nadine Labaki.
I'm wasting all your years. It doesn't matter. I'm chasing old ideas. It doesn't matter.
Capharnaüm de Nadine Labaki, encore un film cannois puisqu'il a eu le prix du jury au dernier festival de Cannes. Je vous rappelle que l'on doit déjà à la réalisatrice libanaise Caramel ou Et maintenant on va où, tous de très beaux films. Moi, Capharnaüm est encore un film qui m'a beaucoup plu. L'histoire d'un petit garçon, Zayn, un petit garçon de 12 ans qui va devant le juge pour attaquer ses parents en justice pour lui avoir donné la vie. Voilà, une requête, un procès assez original. Capharnaüm, c'est surtout l'histoire d'un peuple qui vit dans la misère, un peuple qui fait des enfants mais qui ne peut pas les élever, qui ne peut pas les nourrir. Donc on suit à la fois le destin de ce jeune Zayn, qui est un petit Libanais, à la fois le destin d'une femme immigrée qui vient d'Afrique noire et qui elle aussi tente d'élever son bébé tant bien que mal. Pas du tout de la même manière que les parents du petit Zayn, hein, avec beaucoup plus d'affection. C'est un film qui est vraiment très touchant. Alors forcément, dès qu'on touche à la pauvreté, à l'enfance, bah oui, forcément, c'est un film qui vous tire une petite larme. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi une belle réalisation, de belles images du Liban, même des quartiers pauvres, et puis des personnages très attachants, personnages qu'elle a recrutés sur le terrain. Hein. Nadine Labaki est vraiment allée à la rencontre des gens. Et c'est vrai que le visage de ce petit Zayn Al-Rafa, je ne sais pas si je prononce bien son nom, est très attendrissant. Donc voilà, moi, en tout cas, en tant que mère, c'est un film qui m'a émue, mais peut-être que Jean-Pierre ne sera pas de mon avis.
Bah, c'est-à-dire, en tant que grand-père, je ne sais pas trop quoi dire. C'est un film qui me fait penser au vers de cette chanson d'Aznavour, la misère est moins dure au soleil, parce que au premier degré, effectivement, c'est un film très beau, touchant si on veut. Moi, je n'ai pas été vraiment touché. au second degré, ça me semble un peu fabriqué. Quoi. Je veux dire, effectivement, on montre la misère, mais sous un jour quand même qui n'est pas tragique absolument.
Quand même
Et puis surtout, l'acteur principal, ce Zayn, qui garde c'est son vrai prénom dans la vie, il garde son prénom dans le film. Il est beau comme un angelot renaissance. Alors si ce gosse abandonné avait été moche avec la morve au nez, est-ce qu'on aurait été autant touché? Je ne sais pas. Et moi, tous les personnages sont beaux, intéressants, notamment la petite Éthiopienne qu'il prend sous son aile, la très belle Yordanos Chifera, qui est aussi une amatrice, là. Je ne sais pas s'il est éthiopienne, je ne crois pas. Et puis le personnage qui donne son titre au film, Capharnaüm, qui est un vieillard un petit peu très pittoresque, touché par l'Alzheimer, mais plein de beauté. Je veux dire, tout ça est très beau, tout ça est très joli, trop joli pour moi, ce qui me le rend un peu suspect. Film du tiers-monde fait pour le premier monde, c'est-à-dire pour nous, et justement pour qu'on verse sa larme, voilà.
Bon, ce n'est pas tout à fait faux. Alors, pas tragique quand même quand on voit des enfants qui meurent de faim, des gens qui se font expulser, arrêter. Bon, il n'y a plus gai quand même.
Tu veux que je dise la fin quand même?
Non, bon, on va arrêter d'accord. Là. Donc, Capharnaüm de Nadine Labaki est sorti de l'affiche, me semble-t-il. Mais guettez bien parce que parfois, les petits cinémas de l'agglomération grenobloise repassent les films. En tout cas, moi, je vous le recommande. Et si vous n'êtes pas convaincu, on a encore plein d'idées à vous donner. On va enchaîner tout de suite avec un autre film, le dernier film de Lars von Trier, The House That Jack Built.
Your house is a fine little house, Jack.
Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules.
Let me put it this way. Very few make it all the way without uttering a word. But do carry on merrily, just don't believe you're going to tell me something I haven't heard before.
Oops, that was maybe a mistake.
What was maybe a mistake?
Me getting in this car with you. You might as well be a serial killer. Sorry, but you do kind of look like one.
Un aperçu de The House That Jack Built. Décidément, il donne des titres compliqués à prononcer. Lars von Trier, il a réuni pour ce film un casting un peu étonnant. Matt Dillon, Bruno Gantz et Uma Thurman pour les rôles principaux. Le film est interdit aux moins de 16 ans, il faut le préciser. On suit les meurtres perpétrés par Jack dans les États-Unis des années 70. Jack se confie, raconte son histoire à un inconnu qui s'appelle Verge, si j'ai bien lu, hein, puisque je n'ai pas vu le film. En tout cas, je sais que plusieurs spectateurs ont été choqués quand il a été projeté à Cannes cette année. Et que plusieurs ont quitté la salle, donc ça m'a intriguée, et je me demande ce que vont en penser Adrien et Jean-Pierre. Jean-Pierre.
C'est un film qui aurait pu être bien, mais qui malheureusement rate tous ses effets, parce qu'on ne s'intéresse pas du tout à ce tueur, qui est effectivement quelqu'un d'assez maniaque. Il y a une séquence très particulière où on le voit nettoyer très précisément avec des chiffons la scène du crime, alors que les flics sont juste à côté. Et tout ça fait qu'on n'y croit pas vraiment, quoi. Et surtout, ce film est doté d'une fin totalement ridicule où il descend.
Qu'on ne dira pas.
Où il descend.
Merci, Jean-Pierre.
Mais il descend aux enfers dans des décors où on dirait qu'ils sont tirés d'une peinture, je ne sais pas, de Gustave Doré, par exemple, colorisée maladroitement. Bref, tout ça fiche pas mal le film en l'air. Alors, on se demande pourquoi il a fait ça. Sauf qu'effectivement, c'est un film qui est tiré, paraît-il, d'un fait réel, d'un tueur en série qui a sévi dans l'État de Washington dans les années 70 ou 80. Il a tué, je ne sais pas, une quarantaine de personnes. Là, on en voit 5 dans le film. Mais aucun de ces meurtres ne sont vraiment intéressants, quoi.
Ils sont insoutenables.
Non, mais ils sont pas... Enfin, c'est ridicule, ça. On le voit tirer au fusil à lunettes sur une femme et un enfant. Bon, mais c'est très courant, ça. C'est pas du tout insoutenable. Bref, moi, ça m'a pas intéressé. Ça m'a ennuyé, mais je veux bien croire qu'on puisse être insoutenu et qu'on puisse l'aimer. Mais encore une fois, pour moi, c'est un film totalement inutile.
Adrien.
C'est un film qui aurait pu être mauvais, mais qui est exceptionnel. Ah. J'ai pris un plaisir fou devant ce film. Alors par contre, tous les crimes atroces et les polémiques autour, c'est complètement débile, c'est pas vrai du tout. Si vous attendez à voir un film de serial killer sérieux et trash, passez votre chemin et revoyez plutôt Seven ou Le Seigneur des Anneaux. Mais c'est comme il avait fait pour Nymphomaniac, en fait. Nymphomaniac, c'était un film de sexe sans sexe, et là, c'est un film de serial killer sans crime. Du coup, c'est chapitré, et les 2h20 du film passent assez vite en fait parce que les chapitres sont assez courts. Et
à condition de dormir un peu. Oui.
Chaque crime est décrit méticuleusement. Et il y a la scène, justement, la fameuse scène où il tire sur la famille avec un fusil à lunettes. C'est à mourir de rire.
Et donc c'est un film au second degré, si je comprends bien.
Ah oui,
bien,
oui, complètement. C'est très drôle. En plus, c'est vraiment, il appuie là où ça fait mal. Il répond à ses accusations d'antisémitisme. Voilà, qu'on lui avait fait à Cannes, et même où il avait été nommé persona non grata.
Il a quand même dit qu'il comprenait Hitler. Hein.
Non, ouais, enfin, c'est plus compliqué que ça quand on regarde la conférence de presse. Et voilà, bref, en tout cas, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. La fin, j'ai trouvé ça magnifique. Ce que Jean-Pierre trouve très kitsch, moi, j'ai trouvé ça très beau. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, c'est un film, si tu le prends au second, troisième ou huitième degré, tu es mort de rire tout le long. Les acteurs sont exceptionnels. Matt Dillon est génial. Uma Thurman est génial. Les autres victimes sont superbes.
Uma Thurman, elle a un rôle de 5 minutes sur un film de 2h30. On se demande pourquoi elle est en retard. Enfin, bon, passons.
Bon, comme quoi, on peut vraiment voir deux films dans un film. Donc, si vous nous connaissez un petit peu, que vous avez l'habitude de nous écouter, eh bien, vous saurez si vous vous rangez plutôt du côté de Jean-Pierre ou du côté d'Adrien. En tout cas, si vous avez envie d'aller voir le dernier Lars von Trier's Jaws Jack Built, vous pouvez aller... vous pouvez aller au Méliès, où il est encore diffusé. On enchaîne avec un film qui n'a absolument rien à voir. Donc, sans transition, on va vous parler de Cold War de Pavel Pavlikovski.
Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Co płakały we dnie w nocy, oj, oj, oj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matula zakazała, oj, 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 żebym chłopca nie
donc de Pavel Pavlikovski. Décidément, on met des pièges dans les noms prononcés dans cette émission. Je disais qu'il n'y avait aucun rapport avec les films précédents, mais il y en a un petit quand même, c'est que c'est aussi encore un film qui a été présenté à Cannes et qui a même obtenu le prix de la mise en scène au dernier festival. Film dans lequel on reconnaît le style de Pavel Pavlikovski, le style qu'on avait découvert dans Ida en 2014 ou avant, si vous avez suivi un peu sa filmographie, c'est-à-dire un format carré ou quasi carré avec un noir et blanc très tranché, assez expressionniste. Il raconte ici une histoire d'amour, l'histoire d'un couple, un musicien et une jeune chanteuse qui se rencontrent en Pologne pendant la guerre froide. Lui veut émigrer à l'ouest, elle est quand même attachée à son pays, ou du moins à la peur de quitter la Pologne, et ils vont se retrouver un coup d'un côté, un coup de l'autre, du rideau de fer, et essayer de vivre cette histoire d'amour tant bien que mal, en même temps qu'ils vont essayer aussi de vivre leur passion pour la musique. Moi, c'est un film que j'ai trouvé très beau, mais aussi très froid. Alors, c'est pas uniquement lié à la photo du film, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu trop elliptique, c'est-à-dire qu'on passe vraiment d'une année à, je sais pas, 3 ans plus tard, par exemple. On comprend pas forcément comment leur relation se noue vraiment. On voit leur rencontre, puis après, on les voit amants, mais on sait pas ce qui s'est passé entre. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'ellipses pour que je m'attache vraiment à leur histoire. Et c'est un peu dommage pour un film sur une passion amoureuse. Disons que j'étais pas emportée par ces personnages. Je n'ai pas été vraiment émue, même si je trouve le thème intéressant, même si je trouve les acteurs très beaux, l'histoire très belle aussi. Voilà. Il me manquerait, je sais pas, une petite demi-heure de film. Jean-Pierre.
Ah ben non, moi je trouve que c'est bien qu'il y ait un film qui dure 1h25 au lieu que d'autres durent 2h30, comme ça on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et le fait que ça soit morcelé, ça correspond au morcellement de leur histoire, parce qu'ils sont séparés effectivement pendant de nombreuses années. On sent que elle, je ne sais plus son nom, mais c'est une actrice vraiment magnifique, très très belle.
Johanna
très
Kulig.
Chaleureuse, Johanna Kulig, qui se laisse un petit peu absorber par le système. Elle fait partie de chorales adoubées par le régime de l'Est.
Alors, l'ensemble lui, folklorique voilà, Mazovsk, voilà, je ne sais pas prononcer, mais qui a vraiment existé.
C'est un groupe qui a existé et on sait que le réalisme socialisme tablait beaucoup sur le folklore parce qu'au moins il n'y avait pas de danger, hein, ça ne parlait pas du présent. Et donc tout ça est un petit peu en dessous, fait partie du sous-texte du film. C'est très intéressant de lier ça à leur histoire d'amour compliquée, effectivement morcelée, comme je l'ai déjà dit. Et le film rend bien compte de ça. Et le temps qui passe, eh bien, effectivement, c'est un temps qui passe de manière saccadée, parce qu'il se voit de manière saccadée. Lui, on sent qu'il est peu à peu rejeté, parce qu'il est plutôt rebelle, il est plutôt bon, il vit que par sa musique, mais par cet amour aussi. Et il arrive difficilement à lier les deux. Et c'est un film vraiment, un film de l'Est, si on peut dire, entre guillemets, si vous voulez, mais moi qui m'a beaucoup rappelé les premiers films noirs et blancs de Miloš Forman, quand il tournait encore dans sa patrie de naissance, la Tchécoslovaquie, et notamment un film magnifique que je vous enjoins à regarder sur Internet, si vous pouvez, qui s'appelle Les Amours d'une blonde, et qui est vraiment le prédécesseur ou le double ou le clone de ce qu'est Cold War. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bref.
J'ai aimé aussi Jean-Pierre, mais effectivement, tu es plus enthousiaste que moi. Alors, sur l'histoire fragmentée, oui, mais pas au moment du début de leur relation. C'est là qu'il m'a manqué quelque chose. Mais bon, peu importe. Si vous voulez aller vous faire votre idée, Cold War de Pavel Pavlikovski.
Je l'ai vu, hein.
Ah, oh, pardon, Adrien, excuse-moi.
C'est pas grave, mais du coup je dis rapidement, j'ai vraiment détesté ce film, à part les 10 premières minutes où ils vont faire le casting au fin fond de la campagne polonaise et où on voit les gens chanter traditionnellement. Moi j'aurais bien aimé que ce soit 2 heures de ça le film, mais c'est pas du tout ça, c'est un film, on a l'impression de feuilleter un géo sur les pays de l'Est, quoi, tellement la photo est propre, tellement tout est propre. Alors à un moment donné, bien sûr, il y a Jeanne Balibar, parce que quand on est à Paris, il y a obligatoirement Jeanne Balibar qui fait Juliette Gréco. Elle parle pointu en français, affreux, et le film
après Barbara, c'est Juliette Gréco.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment une comédie involontaire. Dès qu'ils sont accoudés à la terrasse,
on la voit 5 minutes, Adrien. Dans le film,
dès qu'ils sont accoudés à la terrasse d'un bar, derrière on voit les néons Moulin Rouge, Balto, le nom des bars éclairés. Bref, c'est vraiment une comédie involontaire qui m'a fait beaucoup rire, mais pas pour les bonnes raisons. Et surtout, la scène dans les camps de l'Est m'a vraiment gêné, quoi, quand ils vont faire l'amour. En payant le capot, ça m'a pas plu du tout, et j'ai pas aimé de voir une scène aussi dure avec une aussi belle photo. Ça m'a mis très mal à l'aise.
Qu'on paye le capot pour aller faire l'amour.
Non, que l'image soit belle et que les camps soient représentés de manière. Je vous conseille sur le sujet de lire Le Tour de Valse, la magnifique BD de Lapierre et Pellegero. Mais là, non, quoi.
On digresse, mais. Excuse-moi, Adrien, en tout cas. Donc, comme d'habitude, Jean-Pierre a adoré, donc Adrien a détesté. Et moi, je suis entre les deux. Voilà, donc Cold War de Pavel Pavlikovski est encore programmé au Pathé et au Méliès. On enchaîne avec une comédie très légère, il s'agit de En Liberté de Pierre Salvadori.
Ça, c'est vraiment passé comme ça?
Pour la marque de la voiture, je suis pas tout à fait sûre, mais pour le reste, quasiment comme ça, ouais.
Il était fort, papa.
Mais vous êtes qui?
Le comptable de la bijouterie Masséna. Votre diamant brut, c'est moi qui l'ai refilé à Jean.
Putain, Jean, c'était un hibou.
Pendant 8 ans, j'ai vécu avec un sale type, un sale mec, un minable.
Tu sais quoi le pire? Il a mis un innocent en prison.
Tu m'excuses, je cherchais les cigarettes. Je reviens dans 5 minutes. Yvonne, ça va? Il va bien, le gars. Il a fait de la muscu, il a pris des champs de Corse.
Louis, c'est notre faute, tout ça. Il est perdu, ce type, il est complètement largué.
Mais c'est quoi, ce truc de massacrer calmement les gens comme ça? On n'avait pas l'impression que tu te battais, on avait l'impression que tu rangeais ton bureau. Oh. Ça va, monsieur?
Pardon, oui, t'as parfaitement, madame.
C'est ça, l'excuse? J'ai fait 8 ans de temps, je suis innocent, j'ai le droit de scalper des vigiles sur le trottoir. Non, mais tu te rends compte que t'as bouffé le règne de ce mec?
Oh! Pardon, je suis désolé.
C'était la bande-annonce dans Liberté de Pierre Salvadori, à qui l'on doit d'excellentes comédies comme Les Apprentis, Comme elle respire, Hors de prix ou encore Dans la cour, le dernier en date. Il revient là avec une comédie encore complètement déjantée, complètement fantaisiste. On suit Yvonne, une jeune inspectrice de police incarnée par Adèle Haenel, qui raconte à son fils les exploits de son défunt père, incarné lui par Vincent Elbaz. Donc elle fantasme complètement ce qu'a fait son défunt mari pour faire plaisir à son fils et faire de son père un héros, jusqu'au jour où elle apprend que c'était un ripoux. Et là, elle se met en tête de réparer les fautes qu'il a pu commettre, entre autres d'avoir envoyer le personnage de Pio Marmaille en prison alors qu'il n'avait rien fait. Il se trouve que tout cela se passe au moment où il sort de prison et où il décide de commettre des crimes, des vols, des agressions pour se venger du système qui l'a puni injustement. Et elle va le couvrir, ils vont se rencontrer. Ça donne lieu à quelques scènes complètement cocasses où ils commettent des hold-up ensemble ou ce genre de choses. Moi, j'ai été complètement hermétique à cet humour. Ça ne m'a pas fait rire une seconde. Je me suis même complètement ennuyée pendant 1h45 que dure le film. Je n'ai pas compris, voilà. Mais je suis sûre qu'Adrien a beaucoup ri.
Ah non, pas du tout. C'est un film qui m'a laissé de marbre, sauf pour deux scènes. Il y a une scène à la fête foraine qui est magnifique et qui est très très bien filmée. Et une scène où Adèle Haenel fait sa déclaration d'amour à Damien Bonnard dans le commissariat. Et ça, c'est merveilleux. Mais de toute façon, Damien Bonnard et Adèle Haenel sont des acteurs merveilleux. Je les adore. J'avais envie de les prendre dans mes bras. Je suis amoureux des deux. Je voudrais voir les deux dans tous les films.
Calme-toi, Adrien.
Mais tout ce qu'il y a autour, c'est lamentable. Déjà, filmer Marseille aussi mal.
Oui, moi, je tiens Pio Marmaille quand même, si tu veux bien.
Ah, non, Pio Marmaille, il m'a insupporté son rôle de Béné, là. En plus, ça se passe dans le sud, à Nice, et quand il met le feu au restaurant, enfin, moi, ça m'a fait penser aux attentats, ça m'a mis très mal à l'aise, et j'avais pas du tout envie de rire avec ça. J'ai trouvé ça mais lamentable, très mal écrit. À la limite, les grandes sections de maternelle, ils écrivent mieux que ça, des histoires et tout. Vous leur donnez des cartes à images et ils vous font des gags beaucoup plus drôles que ce film. Du coup, non, ça m'a laissé de marbre et ça fait deux films que Salvadori me déçoit. C'est comme ça.
Eh bien, pour une fois, hein, une fois n'est pas coutume, vous allez être d'accord avec Jean-Pierre.
Ah, mais absolument, tout à fait. On peut raconter notre vie quand même. On l'a vu avec Caroline. On était seuls dans la salle, une salle immense. Et au bout de 10 minutes, on s'ennuyait tellement qu'on s'est mis à papoter sans regarder le film parce qu'il n'en valait pas la peine, quoi. Mais je peux ajouter quand même une chose, c'est que le résumé que tu en as fait au début est tout à fait exact. Mais moi, ça m'a fait penser à un autre film qui aurait été un film dramatique, un vrai polar à la française. Et le sujet était là. Seulement, malheureusement, il l'a traité en guignolade et effectivement sans nous faire rire une seconde. Donc c'est plus que raté.
Pour une guignolade. Voilà. Bon, et bien écoutez, nous sommes tous d'accord pour ne pas vous conseiller En liberté de Pierre Salvadori, qui passe néanmoins au pâté si vous voulez aller le voir. Moi, j'en ai eu des échos très positifs de divers spectateurs qui ont beaucoup ri. Donc voilà, avec l'humour, on ne sait jamais. Hein. Donc ça, c'était En liberté. On enchaîne avec un film, j'allais dire un film catastrophe, hein, sur une catastrophe réelle qui s'est produite en 2000. C'est le naufrage, enfin l'explosion du sous-marin Kursk. C'est le titre du film de Thomas Vinterberg.
C'est le Kursk. Il y a un problème.
Au rapport.
Deux événements acoustiques.
Dieu du ciel.
Des survivants?
Capitaine, qu'est-ce qui se passe au bord du Kursk?
Ils vont le faire, croyez-moi.
Nous avons
avons tous les moyens requis pour ramener des hommes à la surface. Acceptez notre aide.
Si votre aide paraît utile, nous vous le dirons.
Ils ont combien d'air en réserve? Est-ce qu'on sait s'il y a des blessés?
On lui a donné notre enfant, tout ça pour quoi? Il meurt pour rien!
Nul n'est éternel. Je voulais t'en offrir plus. Pour nous deux. Tu es mon éternité.
Kursk, avec ce nouveau film, Thomas Vinterberg, le réalisateur danois, est loin de son dogme 95. Cela dit, c'est un film de commande avec Mathias Schoenaert, Léa Seydoux, Colin Firth, une coproduction européenne, un belge luxembourgeoise, avec des acteurs de plusieurs nationalités qui relatent l'explosion du sous-marin le Kursk en août 2000. Les Russes ont essayé de sauver une poignée de marins, une vingtaine, hein, qui ont survécu à l'explosion parce qu'ils étaient dans une partie isolée du sous-marin. Les Russes n'ont pas réussi le secours tout seuls. Ils ont donc dû faire appel à l'aide proposée par d'autres pays d'Europe, mais trop tard. Je ne dévoile rien en vous apprenant ça, hein, puisque c'est un fait historique. Le film de Vinterberg rend très bien tout ça. C'est à la fois un très bon film catastrophe, un bon film politique aussi, puisqu'il montre bien les enjeux de ce sauvetage, j'allais dire pendant la guerre froide, mais non, on est en 2000. Et pourtant, on sent encore les restes de cette guerre froide dans la manière dont le sauvetage est traité, le sauvetage raté. Donc, j'ai trouvé ça aussi très émouvant. Alors, évidemment, tout est là pour vous tirer une larme, puisqu'on nous montre les familles de ces marins, et entre autres la femme du héros, et ses enfants, son fils, alors que ce personnage d'ailleurs historiquement n'avait pas d'enfants, me semble-t-il, mais c'est plus émouvant comme ça forcément. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu, et il me semble que Jean-Pierre sera d'accord avec moi.
Ah oui, tout à fait, c'est même mon film du mois, en tout cas de ceux dont on rencontre cette fois, parce qu'il réussit sur tous les tableaux, quoi. La reconstitution historique, effectivement, ça a été tourné en grande partie dans un vrai sous-marin, évidemment pas russe mais américain, mais sous-marin nucléaire qui ressemblait beaucoup. Il y a tout cet aspect politique qui est effectivement très présent. Alors là, tu dis que les Russes ont fait tout ce qu'il fallait pour sortir leur équipage, mais pas du tout, parce qu'ils ont un matériel pourri qui date de la guerre froide et qui date de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont essayé tout seuls. Ils accusent, entre guillemets, l'agressivité de l'OTAN pour surtout ne pas avoir affaire avec la flotte de l'OTAN, en particulier britannique, qui croisait juste à côté, mais ils n'ont pas voulu les laisser approcher. Donc il y a cette mise en accusation, la froideur, de l'égoïsme et tout simplement de l'imbécilité du gouvernement russe qui est pareil au gouvernement soviétique, quoi. Puis il y a l'aspect humain qui est effectivement très touchant, avec une séquence notamment bouleversante à la fin où le fils du capitaine du vaisseau, qui était Mathias Schoenaert, qui veut être félicité par un amiral et il refuse de lui serrer la main en le regardant droit dans les yeux. Et là, c'est vrai que la petite larme, elle n'est pas loin, quoi. Donc c'est vraiment un film réussi sur tous les tableaux et dans toutes ses dimensions.
Eh bien écoutez, cette fois on est bien d'accord pour vous recommander d'aller le voir, Kursk de Thomas Vinterberg, qui est projeté encore à la Nef. Allez, on enchaîne, septième film du programme, il s'agit de High Life de Claire Denis.
We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us. To serve science.
Why do you keep taking this pill?
I'll never have kids.
Someday. I know I look like a witch.
It's just a new religion for you.
Fuck your baby mission!
We had to begin the deceleration maneuver so the ship could approach a black hole. This is the main goal of our mission. To check if we could capture a black hole's rotating energy.
Do I look like my mother?
Special.
On retrouve la réalisatrice française Claire Denis dans le registre de la science-fiction. C'est assez surprenant après son dernier film Un beau soleil intérieur que j'avais détesté.
Ah oui.
Et vu ce que mes chroniqueurs me disent de ce High Life, je crois que j'ai bien fait de m'abstenir d'aller le voir. Claire Denis dit elle que ce n'est pas vraiment de la science-fiction. Alors je sais pas, je laisserai Jean-Pierre et Adrien en débattre. En tout cas, l'histoire c'est un groupe de criminels qui est condamné à mort et qui accepte de commuer sa peine en une mission un peu particulière. Ils deviennent cobayes dans une mission spatiale. Et voilà tout ce que dit le pitch. Donc, je vais laisser Adrien nous expliquer un petit peu mieux tout ça.
Bah ça, l'histoire, c'est ce que l'attaché de presse a écrit pour attirer les gens à voir le film. Mais après, quand tu es devant le film, tu comprends pas tout, quoi. Parce que le premier plan, c'est un plan... j'ai adoré ce premier plan, c'est merveilleux. C'est un plan sur un jardin, en fait, un peu en permaculture. Et après, la scène suivante, c'est Robert Pattinson avec son bébé qui est tout mignon et qui lui apprend à faire du compost. Et il lui dit « on mange pas son pipi, on mange pas son caca ».
Adrien, ça s'appelle un hydropone, la culture dans un vaisseau. Mais bon.
Ah, je ne savais pas, merci Jean-Pierre. Et du coup, moi, j'y connais rien en science-fiction, donc je parle face à Jean-Pierre, qui est un des maîtres dans le domaine. Donc moi, le film m'a plu parce que c'est vraiment très, il donne rien à son spectateur en fait. Et c'est un film complètement neurasthénique. C'est comme, enfin, j'imagine quand tu prends des Lexomil et que après t'es un peu pâteux. Et ben, c'est un film où t'es complètement pâteux devant, même si tu t'endors, c'est pas grave parce qu'il y a tout le temps des flashbacks.
Il vaut mieux effectivement.
Il y a tout le temps des flashbacks, tout le temps des followards. Alors c'est le premier film sur le thème fil rouge de l'émission qui est l'inceste, qui parle de ce sujet. Alors est-ce que quand on est les deux seuls survivants dans l'humanité, il faut coucher avec sa fille ou pas? La grande question philosophique dont Claire Denis gardera bien de nous répondre et laissera l'interprétation aux spectateurs du 16e parisien qui se réjouira devant ce film neurasthénique. Mais moi j'ai beaucoup aimé, voilà.
Bon, merci Adrien, je n'ai absolument rien compris. Que Jean-Pierre a vu un autre film. Je vous rappelle qu'on parle de High Life de Claire Denis.
C'est un film de pure science-fiction, alors c'est une grande hypocrisie de la part de la réalisatrice de dire que ça n'en est pas. C'est un voyage effectivement à 90% de la vitesse de la lumière qui veut étudier un trou noir. Le trou noir, il vaut mieux pas s'en approcher, mais ça, elle ne doit pas avoir l'air de le savoir. Et moi les films français de science-fiction qui sont faits de manière complètement fauchée, parce que là, ce film est vraiment fauché, effectivement. On sent tout de suite que le fameux jardin, il a été tourné dans un jardin et pas dans un vaisseau spatial, par exemple. Mais moi, j'ai en mémoire un film magnifique sur le sujet de deux survivants dans un vaisseau spatial qui fonce dans l'infini. C'est Passenger, qui est effectivement un film américain, qui est effectivement un blockbuster, mais qui a été fait avec les moyens qu'il fallait. Et là, on y croyait. Et en même temps, c'est assez touchant, tragique et touchant à la fois. Il n'y a strictement rien de tout ça dans Life, pour employer un terme à la mode, à dégager.
Merci Jean-Pierre. Donc, encore une fois, peut-être que ce sera Adrien qui vous aura convaincu d'aller voir High Life de Claire Denis. Et si c'est le cas, vous pouvez aller au Méliès. On enchaîne avec une histoire d'amour, ou plutôt une histoire de perversion. Il s'agit du film de Catherine Corsini, Un amour impossible.
Ma mère et mon père se sont rencontrés à Châteauroux, dans la cantine qu'elle fréquentait.
Il y a trois sortes d'amour. L'amour conjugal, c'est celui que tout le monde veut. Ensuite, il y a la passion. Et ensuite, il y a ce que j'appelle la rencontre inévitable.
T'aimes être une femme?
Oui.
Pourquoi?
Parce que je suis à toi.
Mon histoire, c'est l'histoire.
Il était rentré dans sa vie. Elle ne le voyait pas en sortir.
Je t'aime, Rachel.
Tu veux te marier?
Je sais pas, et toi?
Moi, non. Je vais pouvoir faire ce que je veux.
C'est l'histoire d'un amour éternel et banal.
Et puis enceinte, Rachel, mais ça ne change rien. Tu sais très bien que je ne t'y penserai pas, je te l'ai toujours dit. Évidemment, si t'avais été riche, ça aurait été différent.
Celle où l'on se dit adieu.
J'aimerais bien que tu reconnaisses Chantal. Je ne demande pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Votre fils Philippe et moi avons un bébé de 6 mois.
Oui, je sais.
Et je voudrais pouvoir lui donner des nouvelles de sa fille.
T'as pas peur que ça te fasse mal de le revoir?
Non, puis c'est pour Chantal, on voudrait qu'il la reconnaisse.
Je vais pas reconnaître Chantal. Je me suis mariée.
Elle est trop dure, la vie. Elle est trop dure. Je lève ma fille seule depuis qu'elle est petite. Mais quand elle était petite, elle connaissait quasiment pas son père. Il a repris contact avec elle.
Ça fait longtemps.
C'est un homme cultivé qui lui apporte beaucoup de choses. Il l'emmène en week-end.
Tu te rends compte si j'avais vécu avec lui tout ce que j'aurais appris? On n'est pas une famille. Deux personnes dans une maison, c'est pas une famille!
Et nous, tu sais ce que c'est?
C'est une passion.
Non, c'est une rencontre inévitable.
C'est l'histoire d'un amour.
Un amour impossible, donc, titre du roman de Christine Angot, qui est adapté ici par Catherine Corsini, qui aime les films sur les femmes, dont j'avais adoré La Nouvelle Ève, qui date un petit peu maintenant. Il y a en fait trois histoires dans le film. Hein. Il y a cette histoire d'amour, entre guillemets, entre les personnages de Virginie Efira et de Nils Schneider, tous les deux excellents. Ça se passe à Châteauroux dans les années 50. Elle est d'un milieu modeste et elle est subjuguée par cet homme qui a de la culture, qui vient d'une famille bourgeoise, parisienne, et qui l'épate assez facilement. Il va lui faire un enfant, mais sans jamais rien lui promettre. Donc il ne l'épousera pas, il ne reconnaîtra pas l'enfant, en tout cas pendant de longues années. Et elle accepte tout ça parce que c'est une femme simple qui veut vivre les choses comme elles viennent, elle se consacre à sa fille. La deuxième histoire, c'est l'histoire de la relation mère-fille, une relation qui devient compliquée au moment où le père revient dans leur vie. Voilà, relation très intéressante sur laquelle le film se termine. Et puis la troisième histoire, eh bien, je pense ne rien dévoiler en vous disant que c'est une histoire d'inceste, puisque on connaît le roman de Catherine Angot, enfin qu'on connaît son histoire, hein, c'est de l'autofiction. Elle-même a vécu des violences sexuelles de la part de son père, et c'est ce que raconte le film, raconté d'ailleurs en voix off par le personnage de la fille qui correspond à Christine Angot. Alors avec peut-être quelques petits changements, puisqu'on n'est pas dans la pure autobiographie. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très beau film. Vraiment, Virginie Efira est une actrice qui m'épate dernièrement. Elle est arrivée du petit écran et je la trouve très très convaincante au cinéma, très naturelle. J'ai bien aimé l'histoire de perversion avec ce personnage de pervers narcissique du père. Et même si la narration en voix off m'a un petit peu gênée, parce que je trouve que ça donne toujours un côté trop littéraire au film, au final, je l'ai oublié pour me plonger dans cette histoire très subtile. Donc, c'est vraiment un film que je recommande. J'espère qu'Adrien sera d'accord avec moi.
Ah oui, tout à fait. C'est un film que j'ai trouvé magnifique, notamment sur les gestes des personnages de Nils Schneider et de Virginie Efira quand ça se passe en 1959. La manière dont on décroche un téléphone, dont on se sert d'un téléphone à cadran, tout ça, on dirait que vraiment elle a voulu décrire une époque. Et ça, déjà, c'est merveilleux. Et ensuite, Catherine Corsini, ce qui est génial, c'est qu'elle fait pas de faux suspense sur le thème de l'inceste. Leur histoire d'amour est magnifique au début, et on sait qu'il va se passer un drame, parce qu'on sait que c'est adapté d'un livre de Christine Angot et que c'est de l'autofiction, et elle fait jamais de faux suspense là-dessus, et du coup elle fait confiance à l'intelligence du spectateur qui sait que c'est inspiré d'une œuvre littéraire. Et du coup la voix off, ça m'a pas du tout gêné, moi, justement parce que je trouve ça magnifique la manière dont ça fait le lien entre la littérature et le cinéma. Et c'est vraiment un grand film. Ça m'a donné envie de lire le livre de Christine Angot, qui est une image un peu caricaturale en ce moment parce qu'elle est dans l'émission de Laurent Ruquier, mais je pense qu'il faudrait arrêter avec son image caricaturale, parce que toutes les adaptations de ses livres au cinéma sont magnifiques. Donc moi j'ai trouvé ça très très beau, ça m'a beaucoup touché, ça m'a bouleversé, les acteurs sont géniaux. Tous les petits détails qu'il y a sur l'époque, notamment quand Virginie Efira est mutée dans un autre travail, c'est vraiment 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 très beau. J'ai beaucoup aimé le personnage de la sœur de Virginie Efira aussi, et aussi la dernière partie qui m'a beaucoup touché, notamment quand le personnage de Christine Angot va visiter le musée Rodin avec son père. C'est bouleversant, c'est vraiment un film à voir et à revoir, tellement il est riche, tellement il est beau et très bien éclairé.
Eh bien, nous sommes d'accord. Donc, vous pouvez aller voir, Jean-Pierre, toi aussi, Un amour impossible de Catherine Corsini, qui passe au pâté et au club. On enchaîne avec une autre histoire, parent-enfant, mais dans un genre différent. Il s'agit de Mon cher enfant de Mohamed Benatia.
هيك شي نعمل طلل سافر كندا لا
شنو
قال قرايه غادي
وكيفاه الفلوس
Sparagir, papa.
Sparagir.
Chouinou. شنو تو؟ حبل كان في يديا؟ سامي مش روح بيه؟
ولدي فادي ماناش باتصال بعد الكل.
ولدي كل شيء في حياتي.
Mon cher enfant de Mohamed Ben Atia s'intéresse au sujet de la radicalisation, malheureusement à la mode en ce moment puisque cela fait partie de l'actualité. On est en Tunisie et un couple voit son fils partir en Syrie. Alors je vous résume ça comme ça, mais il y a une bonne moitié de film où le fils est encore là, à Tunis, il s'apprête à passer le bac, on voit bien qu'il a quelque chose qui ne va pas, les parents pensent qu'il a un problème de santé, donc ils courent les spécialistes, et finalement à peu près à la moitié du film, le fils part et le père va partir le rechercher en passant par la Turquie, va aller en Syrie. Il va revenir sans lui et je vais peut-être m'arrêter là dans le résumé quand même. Mais
tu veux pas que je dise la fin quand même.
Je me rends compte, bon. J'en ai peut-être trop dit, je ne sais pas. Mais c'est un film qui m'a beaucoup déçue, dans lequel je me suis ennuyée. J'ai trouvé que le sujet arrivait très tard, trop tard et qu'on s'ennuyait beaucoup pendant la première partie du film. D'autant que les acteurs jouent d'une manière assez stéréotypée et assez monotone. Hein. En gros, le personnage du fils fait la tête pendant trois quarts d'heure. Et voilà tout ce qu'on voit de cet acteur. J'ai trouvé aussi, surtout, que le film ne souffrait pas la comparaison avec quelques films qu'on a vus dernièrement sur le sujet, comme Le ciel nous attendra, que j'avais adoré, ou encore Les Cowboys, qui en est peut-être encore plus proche, puisqu'on suit un père qui part à la quête de sa fille djihadiste. Donc voilà, c'est une grosse déception, ce film de Mohamed Ben Atia, Mon cher enfant. J'ai bien peur que Jean-Pierre ne le revalorise pas bien.
Non, je suis absolument d'accord avec toi. C'est un film qui devrait nous émouvoir. On reste absolument de marbre, effectivement, en grande partie à cause du jeu atone des acteurs, et surtout le fils qui est totalement absent. Il ne pourrait pas être là que le film ne changerait pas. Le côté politique, bon, il est vaguement effleuré, mais sans plus. On ne sait pas pourquoi il part, on ne sait pas pourquoi ce qui se passe exactement. La photo est moche, terne, enfin, il n'y a rien à sauver dans ce film, et je m'arrêterai là.
Bon, bah écoutez, si vous avez tout de même envie de le voir, Mon cher enfant de Mohamed Ben Atia passe à la nef. On enchaîne avec un film, bien encore une fois, sur les violences sexuelles faites aux enfants. Il s'agit des Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer.
Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. D'être gentille.
Un petit Odette.
Je t'aime, Aja.
C'est incroyable, ce Gilbert.
T'oublie pas, c'est Gilbert qui vient le chercher.
Gilbert !
Merci d'avoir ramené la petite, mon beau, je t'en prie.
C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette.
On va demander à Odette.
Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle.
Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein.
Vos parents ont jamais eu de doute.
Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance.
Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse.
Comment tu t'appelles, toi?
Odette.
T'as pas respecté ta mère, toi, merde.
Manu, c'est mon meilleur ami.
Mais c'est quoi ton délire avec la psy?
Il est déjà 18h05.
Ok, il y a un obèse qui s'impatiente.
Il n'y a pas de petite douleur, Odette.
Je déconne.
Puis face à l'amour, vous vous figez.
Trop gentil, en fait.
Il n'y en a pas deux comme moi. Je devrais en profiter.
Je n'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme.
Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses.
Non, c'est un conte de fées, ça.
Il est salvateur de parler de ce qui vous est arrivé.
Vous croyez que je vais aller détruire la vie de mes parents alors que Miguel, c'est le meilleur ami de la famille?
Ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une tuque là, mais regarde. Ça t'a mis la rage, c'est qu'un souvenir.
Les Chatouilles d'Andrea Bescon et Éric Métayer, mon coup de cœur du mois. Attention Adrien à ce que tu en diras, puisque nous sommes les deux seuls à avoir vu ce film, qui est tiré de la pièce de théâtre de la même Andrea Bescon, Les Chatouilles ou La danse de la colère, pièce pour laquelle elle a été primée. Elle a remporté le Molière de la meilleure seule en scène en 2016. Le spectacle a vraiment cartonné au théâtre. Et là, donc, elle le rend en film avec beaucoup de scènes de danse, puisque c'est aussi une danseuse, Andrea Bescon. Elle raconte sa propre histoire, les violences sexuelles qu'elle a subies d'un ami de ses parents quand elle avait 8-10 ans. Et puis ce qu'elle est devenue adulte, comment elle a essayé de se libérer de ce passé douloureux. Donc tout le film est construit sur une alternance de séquences chez la psy et de flashbacks sur sa vie, flashback réel ou flashback fantasmé, puisqu'elle intègre ses fantasmes à son récit de ses souvenirs pour essayer en quelque sorte d'accepter ce passé, de mieux le vivre. J'ai trouvé que c'était un film magnifique qui parlait avec beaucoup d'optimisme d'un sujet douloureux, un film qui ne sombre jamais dans le pathos, qui ne cherche pas à vous faire pleurer, même si le sujet est dur et qu'on voit bien de quoi est victime la petite fille. C'est plein d'énergie, voilà, les séquences dansées sont très belles, très dynamiques. J'ai trouvé le personnage d'Andrea Bescon, donc elle en tant qu'actrice, je veux dire, parce qu'elle interprète son propre rôle, vraiment très, très enthousiaste. Elle nous emporte avec elle, elle nous donne de l'énergie. Moi, j'en suis ressortie vraiment, enfin, j'allais dire euphorique, mais ce serait exagéré de dire ça d'un film sur les violences sexuelles faites aux enfants. Adrien.
Alors, c'est un film qui m'a insupporté. Non, je déconne, j'ai adoré. J'ai adoré, du coup, je me suis dit comment on pourrait décrire ce film à quelqu'un qui ne l'a pas vu. Eh bien, imaginez un film de Haneke, éclairé par le chef-op de Danse avec les stars ou de la Starac. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'Andrea Bescon n'était pas une danseuse à l'Opéra de Paris ou une danseuse contemporaine qui jouerait à Nanterre ou à l'Odéon. C'est une danseuse qui jouait dans les comédies musicales type Roméo et Juliette et les Dix Commandements. Et il y a aussi ça qui est très fort dans le film, c'est qu'on voit que c'est un truc... voilà, qu'elle aime un truc de classe aussi, parce qu'elle aimerait faire de la danse estimée, et on voit les tournées des Zéniths, des Palais des Sports, et c'est très très bien décrit. Et il y a notamment une scène fantasmée d'un voyage aux États-Unis qui se passe sur le parking d'un diner qu'on voit dans les zones commerciales type comboire, et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Il y a plein d'idées de mise en scène, c'est incroyable. L'actrice qui joue la psy est juste merveilleuse. Il y a plein de blagues intellectuelles dans un film qu'on dirait sorti d'une production TF1. Ça m'a vraiment bouleversé, vraiment touché. Et il y a même au niveau du montage une ambition complètement folle dans les scènes de danse. Quand elle danse dans la comédie musicale Rabbi Jacob, puis qu'elle danse en boîte de nuit, puis qu'elle danse dans le noir et tout, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ambition dans la mise en scène. C'est un film admirable, les acteurs sont exceptionnels. Pour bien diriger Clovis Cornillac, il faut quand même le faire. Et là, ils y arrivent.
Il joue un père très touchant.
Ouais, c'est bouleversant.
On n'a rien dit de Karine Viard aussi.
Et Karine Viard, mais t'as envie de lui mettre des claques, quoi, alors que c'est une actrice que j'adore, qui est magnifique. C'est vraiment un film très important. Je pense qu'il faut y aller. Et au moins, on pourra dire à la fin de l'année, là, on va faire nos bilans, que les films qui sont sortis cette année, que ce soit Girl, Make to My Love ou Les Chatouilles, on peut ne pas aimer, mais au moins c'est des films qui font discuter, qui créent du lien entre les gens, et ça c'est merveilleux. Et donc du coup, aller le voir, c'est vraiment très important.
Et qui osent des choses du point de vue de la réalisation aussi, qui ont un style, un vrai style.
Ouais.
Et je me rends compte qu'on n'a rien dit de la relation mère-fille, puisque tu parlais de Karine Viard. C'est aussi une relation très compliquée, qui est aussi très intéressante dans le film. Donc, en tout cas, allez le voir. Comme ça, vous verrez tous les thèmes intéressants traités par Andrea Bescon et Éric Métayer dans Les Chatouilles qui passent au pâté et au club. Allez, on arrive à la fin de ce long programme avec un film de guerre féminin. Il s'agit des Filles du Soleil d'Eva Husson.
Mon unité est un peu différente des autres. Les filles sont toutes anciennes captives.
T'as fait quoi comme étude ?
J'étais avocate.
Ça te manque ?
C'est pas ce qui me manque.
Comment t'en es venu à t'engager?
C'était ma seule chance de retrouver mon fils. Buntan lera serkotana. Ama! Buhar khushke ki zindani man jangavar edla daigwa. Ki devet anemuna? Ah! Ah! Ushan bo jinbo azadi!
Les Filles du Soleil, c'est le deuxième film d'Eva Husson après Bang Gang. La réalisatrice française était présente en compétition au dernier festival de Cannes, elle aussi. Vous voyez que les films sortent un moment après. Elle raconte là l'histoire vraie d'un bataillon de femmes formé au Kurdistan, un bataillon de femmes qui avait été souvent enlevées, violées, et qui, une fois qu'elles avaient retrouvé leur liberté, combattaient pour la libération du Kurdistan contre les extrémistes, contre les islamistes. À leur tête, un beau personnage de femme, Bahar, qui se bat aussi pour essayer de retrouver son fils qui a été enlevé. Elle est incarnée par la sublime Golshifteh Farahani. Et puis ce bataillon de femmes est suivi par une journaliste française incarnée, elle, par Emmanuelle Berco, dont le personnage a été inspiré apparemment par des vrais journalistes célèbres, hein, Marie Colvin, entre autres, une journaliste américaine qui est morte dans un bombardement en Syrie en 2012. Donc voilà, c'est une histoire très intéressante dans un film, moi, qui m'a émue, que j'ai trouvé beau. C'est vrai qu'il ne montre peut-être pas toute la réalité de cette guérilla. C'est vrai qu'il est peut-être un petit peu cousu de fil blanc par rapport à l'histoire de cette mère qui recherche son fils. Dont je ne vous donnerai pas la suite de l'histoire.
C'est dommage quand même, c'est dommage.
Oui, mais Jean-Pierre le fera. voilà, le personnage de la journaliste est-il utile ou non ? Bon, c'était une manière d'apporter un point de vue extérieur sur cet événement. Voilà, bon, c'est pas un film que je trouve complètement réussi, mais en tout cas, il a des aspects intéressants et je ne comprends pas pourquoi la critique s'est acharnée sur lui comme ça. Jean-Pierre ?
Ben, on se demande bien, oui, parce que c'est un film qui est constamment intéressant, qui est constamment beau. C'est presque un documentaire reconstitué parce qu'effectivement, la caméra colle au corps et au visage de ces femmes, particulièrement effectivement sur celui de Golshifteh Farahani, qui est la plus belle femme du monde. On aimerait bien se battre et mourir à côté d'elle dans son bataillon de femmes. Alors, je ne sais pas si c'est le texte, le récit lui-même est tiré strictement sans d'un fait vrai, mais il y a beaucoup de femmes kurdes qui se battent, effectivement, et c'est dans le monde arabo-musulman, c'est la seule ethnie, hein, qui est une ethnie, mais qui n'est pas un pays, parce qu'il n'y a pas de Kurdistan, effectivement, c'est des ethnies qui sont partagées entre plusieurs nations, c'est les seules femmes qui se battent, et qui se battent de manière très efficace, parce que leurs adversaires, c'est Daesh, hein, tu ne l'as pas nommé, mais c'est Daesh, s'ils sont tués par une femme, ils se disent qu'ils ne vont pas au paradis, donc voilà, c'est des combattantes qui sont très, très redoutées, et là, c'est un film, encore une fois, comme je l'ai dit, très expressionniste. Peut-être on aimerait en savoir plus sur ces femmes, quel est vraiment leur quotidien, parce qu'elles ne se battent pas 24 heures sur 24, hein, mais c'est un film très bien filmé, très, très convaincant, très réaliste, même si effectivement ça n'a pas été filmé sur place mais en Géorgie, même si ce sont toutes des actrices professionnelles et pas des combattantes évidemment. Mais du fait que c'est un sujet très... très rarement abordé, peut-être même c'est le premier film qu'il aborde, je trouve qu'il est absolument à voir, et les mauvaises critiques, tant pis pour eux, ils n'ont rien compris, c'est dommage.
On peut te croire sur le sujet, puisque je rappelle que ton livre sur le cinéma, sur les films de guerre, est dans toutes les bonnes librairies.
Il vient d'obtenir, je le dis, le prix de Pessac, du Festival du film d'histoire de Pessac. Voilà.
Eh bien, bravo. Et pour répondre aussi à ta question, la réalisatrice Eva Husson s'est appuyée sur des récits de femmes d'anciennes captives qui avaient pris les armes. Donc voilà, même si elle a romancé
ça part quand même de faits réels.
Donc c'est Les Filles du Soleil d'Eva Husson qui passe au pâté et à la nef et que nous vous recommandons avec Jean-Pierre. Il nous reste assez peu de temps, mais on avait quelques coups de cœur chacun. Moi, je vais les mentionner rapidement. Alors, c'est pas un gros coup de cœur, mais Le Grand Bain de Gilles Lellouche est en train de cartonner en ce moment. Et moi, c'est vrai que c'est une comédie qui m'a vraiment fait rire. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé Bohemian Rhapsody de Bryan Singer, hein, sur Freddie Mercury et Queen. Alors c'est pareil, c'est une des grosses affiches du moment, vous l'aurez peut-être déjà vu, mais moi je tenais à dire qu'il m'avait beaucoup ému. Jean-Pierre, un petit conseil
plus. Un petit conseil en plus, c'est The Spy Gone North de Yoon Jong-bin, film sud-coréen sur un espion qui s'introduit dans la Corée du Nord, et qui est un film d'espionnage classique, mais qui montre bien les rouages de la Corée du Nord et les rapports souterrains qu'on connaît pas toujours entre les deux Corées, qui sont beaucoup moins étanches que ce qu'on en croit. Et c'est d'autant plus remarquable que quand on se balade vraiment à Pyongyang, on croit qu'on y est, et ben non, tout a été fait en image de synthèse, et c'est assez remarquable de ce côté-là, voilà.
C'est Spy Gone North, donc, et toi Adrien, deux petits coups de cœur.
Ben, Sophia Antipolis, je sais pas si vous pourrez le voir, mais voilà, s'il passe à Montciné ou à Villarbonneau, courez-y, c'est un film merveilleux de Virgile Vernier et Samouni Roy, d'un documentaire d'animation magnifique sur le conflit israélo-palestinien qui fait froid dans le dos et qui est glacial, que je vous conseille vivement d'aller voir, qui est beaucoup plus fort que Valse avec Bachir, voilà, mais c'est un film très fort.
Et qui passe au Méliès, me semble-t-il. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau, Adrien et Jean-Pierre. Merci à Jérémy pour la technique. On se retrouve le mois prochain, mois de décembre, avec encore une petite programmation éclectique et quelques idées de sorties cinéma pendant les fêtes. Bonne projection à tous et rendez-vous le mois prochain sur Radio Campus.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.